les jardinières.
Au printemps, il n'y a pas que les fleurs et les arbres qui poussent, mais aussi les champignons. On vous emmène en forêt ce matin. Bonjour Stan.
Bonjour Mylène.
Et pour nous parler de champignons, nous sommes en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
je m'emporte.
Mais il n'y a pas de souci Mylène, on vous souhaite à toutes et tous un bon réveil et bienvenue chez les jardinières, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Gaëlle, c'est le printemps avec des journées très chaudes, hein, comme ce week-end, mais aussi très froides comme durant la semaine, du soleil, de la pluie, bref, il y en a pour tous les goûts. Du coup, comment se comportent les champignons en ce moment?
Mais ils se comportent bien les champignons, hein. Il y a eu quand même passablement de périodes d'un peu de chaude, un peu froide, et du coup, c'est assez intéressant parce que ça a fait pousser une belle variété d'espèces pour la saison. Elle a commencé assez tôt la saison. Et pour les amateurs de mori, il faut y aller, il y en a.
Merci Gaëlle. Donc, dans quelques instants, on va partir en direction de Neuchâtel puisque vous nous avez emmené au jardin botanique pour tenter de trouver des champignons.
7h, 8h. Les jardinières.
Les champignons ne poussent pas qu'en automne et pour preuve, on vous en parle ce matin. Nous sommes en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons.
Gaëlle, c'est du côté de Neuchâtel que vous nous avez donné rendez-vous pour partir à la recherche de champignons de printemps.
Parce que j'aime bien ce jardin, parce qu'il y a une grande diversité de milieux. Hein. Et puis du coup, c'est vrai qu'on peut voir pas mal de champignons. Bon, maintenant, on n'est pas vraiment en plein boom. Mais il y a un endroit où on trouve le tricholome de la Saint-Georges, normalement. Mais là, on est un peu tôt dans la saison, donc il n'est pas encore sorti. Mais je voulais aussi montrer à Mylène différents endroits du jardin botanique où il y a des champignons et qu'en fait, les gens ne les voyaient pas. Et aussi, on s'est arrêté autour d'un tas de bois pour lui montrer qu'en 15 ans, en fait, on ne voit pratiquement plus le bois. Il a disparu, il s'est fait manger par les champignons et du coup on trouve maintenant plus que l'humus un peu noirâtre et du coup on voit bien l'évolution de ce que peut devenir un arbre quand il est dégradé par les champignons.
Le champignon pour nous c'est un pied et un chapeau, mais pas que.
Mais pas que, non, effectivement. Et là dans un des champs du jardin botanique on voit un énorme rond de sorcière qui doit faire, je pense bien 5-6 mètres de diamètre et puis en fait, on ne le voit pas parce qu'il faudrait être sur le vallon opposé.
Là, on va où?
Alors là, je vais te montrer encore. On va avancer de quelques pas pour te montrer en fait les ravages d'un champignon sur un arbre vivant et pourquoi généralement les forestiers, certains arbres, ils les coupent, notamment dans les villes, pour justement protéger les gens parce que le champignon a mangé l'arbre. Donc, il y a plein de pourriture cubique brune et l'arbre, il est tombé il y a à peu près 4 ans, donc en travers du chemin.
On y va.
On voit que la souche d'arbre, en fait, elle est toute brune. Si on s'approche, on voit qu'il y a de la pourriture cubique. Et l'arbre, justement, il est tombé il y a à peu près 4-5 ans. Et puis, ils ont laissé justement le tronc d'arbre. Ils ont coupé pour libérer le chemin. Et puis, ce qu'il y a de fou, c'est que chaque année, alors l'année passée pas, parce que je pense qu'il a un peu, il peut plus le champignon. Mais en fait, c'est un polypore soufré qui a dégradé l'arbre. Et puis en fait, chaque année, ils faisaient une fructification de plus en plus loin dans l'arbre. Et puis là, la fructification, elle aurait dû être sous le tronc d'arbre. Donc je pense qu'elle n'est pas partie. Peut-être que plus tard, elle sera un peu plus loin. Ici, on est au fond du jardin botanique. Et c'est ici que chaque année, je trouve le tricholome de la Saint-Georges. Donc, tricholome de la Saint-Georges, qu'on appelle aussi Calossype gambosa, qui est un excellent comestible, qui a une odeur de farine et qui pousse normalement à la Saint-Georges. Et comme on est début avril, c'est un peu trop tôt pour qu'il pousse, en tout cas ici dans cette station. Ça aussi, c'est des vieilles barrières en bois qu'ils ont fait pour, je pense, stabiliser le terrain. Et puis on voit qu'elles sont en train de petit à petit disparaître, puis être remplacées par de l'humus en fait.
Est-ce qu'un jour, les champignons domineront le monde et auront bouffé tous les arbres?
Alors, ce qu'on aime bien dire qu'en fait, le champignon, il est en train de préparer le monde après l'humain. On va dire ça comme ça. Le champignon, il a toujours su évoluer en fait avec ce qui arrive en fait. On dit toujours qu'il est un peu précurseur. Donc, c'est-à-dire qu'il produit beaucoup de substances qui peut-être pour l'instant ne sont pas forcément utiles, mais tout d'un coup deviennent utiles. Typiquement, la période du carbonifère, ça a été une accumulation de végétaux énorme. Ça a créé du charbon, ça a créé du pétrole, ça a créé vraiment beaucoup de zones riches en bois. Pourquoi ? parce que le champignon n'avait pas encore inventé la dégradation de la lignine. Alors que du moment qu'il a inventé la dégradation de la lignine, on n'a plus eu ces accumulations de végétaux.
C'est un bon influenceur.
Exactement, oui, tout à fait, suivez les champignons.
Alors Gaëlle, on s'est promené mardi, hein, il faisait froid, il pleuvait, depuis le soleil est revenu. Est-ce que vous avez croisé des tricholomes de la Saint-Georges depuis ?
Non, j'y suis retournée mais ils ne sont pas encore sortis. Et puis avec la petite pointe de frais qu'on a eue mardi, je pense qu'il a préféré rester au chaud.
Merci Gaëlle. Après la pause musicale, c'est justement de tricholomes de la Saint-Georges dont vous allez nous parler.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières vous emmènent en forêt. Nous sommes en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel. Gaëlle, en préparant cette émission, vous avez proposé de nous parler du tricholome de la Saint-Georges. Alors déjà, pourquoi ce champignon et pas un autre ?
Parce que déjà, c'est un excellent comestible qui pousse au mois d'avril. Donc, comme tu m'as proposé de venir au mois d'avril, je me suis dit pourquoi pas. Tricholome de la Saint-Georges, donc la Saint-Georges, c'est le 23 avril. C'est pour ça que c'est un champignon qui pousse au mois d'avril.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce champignon ?
Alors, c'est un champignon qui est assez charnu, en fait. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il a des lames qui sont plutôt claires. Et on dit échancré. Et en plus, quand on le coupe, il sent bon la farine. Et il a des teintes un peu qui tirent entre le blanchâtre, un peu beige, un peu rosâtre. Ça va dépendre d'où c'est qu'il pousse.
Bah justement, où est-ce qu'il pousse ce champignon ? Est-ce qu'on peut l'apercevoir ?
Alors, il pousse justement généralement de avril à mai. Il est généralement en symbiose avec les arbres de la famille des rosacées. Donc, on le trouve souvent dans les vergers ou au pied justement d'arbres comme justement le mérisier ou des choses comme ça.
Et pour la cueillette, c'est comme pour les autres champignons, on peut mettre un petit coup de canif au pied et hop, dans le panier ?
Exactement, donc c'est bien de toujours prendre la totalité du champignon, de gratter un petit peu le pied. Et puis après, si on n'est pas sûr, on fait appel à un contrôleur.
Comme vous par exemple. Gaëlle, c'est donc un champignon comestible. On sait par exemple que les morilles, on peut les sécher pour les conserver. Celui-là, comment on le conserve ? Parce qu'il a une période de cueillette assez courte.
Assez courte, ouais. Donc l'idéal, c'est quand même le consommer frais, mais bien sûr cuit. Parce que justement, comme c'est un très bon champignon, on aura vraiment toutes les saveurs. Sinon, on peut également aussi le sécher pour pouvoir le conserver un peu plus tard. Mais il va perdre un peu de cette texture. Congelé, faites attention, parce qu'il devient un peu plus mou et puis ce n'est pas très agréable. Et du coup, en omelette ou simplement en croûte.
Et je me demandais justement, vous parlez de bien les cuire. Il y a cette question qui revient souvent. Si je cuis des champignons, est-ce que je peux les réchauffer ? Par exemple, j'en mange à midi, est-ce que je n'ai pas fini mon plat parce que c'était trop ? Je peux réchauffer le soir, les tricholomes, ça passe ?
Alors les champignons, il faut faire attention parce que comme c'est des organismes qui vivent dehors, ils accumulent justement quand même pas mal de bactéries autour d'eux. Et puis le fait de les cuire, on va monter en température, on va avoir à un moment une température, quand ça refroidit, idéal pour le développement des bactéries. Et le problème, c'est quand on réchauffe, on recommence justement à réactiver ces bactéries. Et puis après, on peut avoir une intoxication alimentaire. Donc, on peut le faire ça une fois, mais pas deux.
Et puis, en revenant sur le tricholome de la Saint-Georges, est-ce qu'on peut le confondre, ce champignon, avec d'autres qui pourraient être toxiques ? Et puis, lesquels ? Et comment on peut être sûr qu'on est sur un bon coup ?
Alors, idéalement, au printemps, en fait, on peut trouver deux espèces qui ressemblent. Il y a l'Inocybe patouillardii, qui est un champignon qui est blanchâtre et qui va rougir. Il a des couleurs, des lames qui vont devenir plutôt brun tabac, brun sale. Et il y a un autre Inocybe, qui est l'Inocybe fibrosa, qui est aussi un champignon assez cossu dans ses mêmes couleurs. Et simplement aussi, ces deux champignons, ils ont une odeur spermatique.
Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la différence plutôt au nez qu'à l'œil. Alors.
Oui, on le fait beaucoup au nez, ce champignon. Oui, puis après, avec la couleur des lames aussi, qui va être différente.
Et puis, couleur des lames et odeur de farine, donc.
Exactement.
Et puis toujours, bien sûr, vous rendre chez un contrôleur ou une contrôleuse pour faire vérifier votre cueillette, c'est ce qui marche le mieux. Merci pour cette découverte. Vous allez en chercher ce week-end, du coup ?
Moi, je fais toujours faire mon petit tour, oui.
faut nous en ramener samedi prochain si vous en trouvez. Dans la suite des jardinières, vous allez nous parler des rondes sorcières. Vous en avez touché quelques mots dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure. Un phénomène naturel, mais qui a quand même coûté la vie à pas mal de sorcières au Moyen-Âge. Hein. Gaëlle, vous nous en direz plus dans quelques minutes. Ça sera après une pause météo, inforoute et musicale, bien sûr.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières ont quitté le potager. Nous parlons de champignons en compagnie de notre invitée Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons.
En première partie d'émission, vous nous avez emmené au jardin botanique de Neuchâtel pour parler du tricholome de la Saint-Georges, un champignon de printemps à l'odeur prononcée de farine, on le rappelle.
Et puis durant cette balade au jardin botanique, on a pu observer un rond de sorcière. Alors Gaëlle, dites-nous, c'est quoi finalement un rond de sorcière ?
Alors en fait, le champignon, il a l'habitude de se développer en cercle, en fait, s'il n'a pas d'obstacle sur son chemin. Et du coup, comme il est capable de se nourrir seulement sur l'extrémité, il va produire des enzymes qui vont digérer la matière organique qu'il y a dans le sol. Et puis, du coup, ça va rendre disponible beaucoup d'éléments nutritifs pour les plantes. Donc elles vont pousser beaucoup, elles seront très vertes sur l'extérieur. Mais comme le champignon se nourrit aussi, ça veut dire juste avant cette zone verte, le champignon l'aura tout manger, du coup la plante elle n'aura plus rien et du coup ça va un peu brûler cette terre et du coup à l'époque on associait ça en fait aux sorcières et à leur rituel où elles brûlaient justement soi-disant pour faire des rituels et en fait non c'est simplement le champignon qui se nourrit en fait.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer voir des rondes sorcières dans son jardin, dans son gazon et s'il y en a, est-ce qu'on doit les laisser, on les tond, est-ce que c'est comestible ou est-ce que c'est à fuir?
Alors, justement, les rondes sorcières, il y a beaucoup d'espèces qui le font. On le trouve surtout dans les forêts ou dans les champs. Si le champignon est présent et qu'il y a un ronde sorcière, si on a de la chance, c'est des champignons comestibles. Mais si on n'a pas de chance, ça peut être d'autres champignons. Mais pour pouvoir enlever, en fait, il faudrait excaver toute la terre. Donc, je ne vois pas l'importance, en fait. Simplement, le champignon, il va aussi nourrir le sol, aider les plantes. Et puis, il y a juste une certaine zone qui va être un peu plus brûlée.
Gaëlle, comment est-ce qu'il évolue ce rond de sorcière au fil des mois ou des années ?
En fait, comme le champignon se développe continuellement, chaque année, en fait, il va s'agrandir petit à petit.
Quelle espèce, variété de champignons donne des rondes sorcières ? Les morilles, on pourrait espérer ou bien ?
Alors, si on a de la chance d'avoir des morilles qui sont symbioses avec les arbres, on peut avoir justement des rondes sorcières. Il y a beaucoup d'espèces qui le font. Mais les plus connues, c'est quand même par exemple les amanites tumouches, où des fois on voit ces cercles où il y a des amanites tumouches. Il y a aussi les grandes lépiotes qu'on peut trouver, les pieds bleus, les rosées des prés aussi qui vont faire ces rondes sorcières. Et aussi le clitocybe géotrope, on voit souvent, on arrive puis hop, on cueille toute la ligne.
Parce et le que, panier est plein.
Et le panier est plein, exactement.
Il y a quelque chose à faire pour les solliciter, c'est les entretenir, ces rondes sorcières, ou c'est la nature qui décide ?
Non, c'est la nature qui décide. C'est vraiment les conditions environnementales qui vont faire que le champignon se plaît, se développe. Et puis, pour qu'il y ait des fructifications, il faut vraiment que l'humidité, la température soient idéales pour que ça pousse. Rien qu'hier, j'ai un monsieur qui est venu, qui avait eu des morilles dans son jardin. Il m'a dit, ça fait 40 ans que je suis là, j'ai jamais rien fait, il y a des morilles dans mon jardin. Je dis, tant mieux, j'espère que l'année prochaine il en aura, il y a de fortes chances parce qu'il n'a pas à faire de remblai ou quoi que ce soit, il n'a pas excavé la terre ou rien du tout. Donc tant mieux pour lui, j'espère que ça continuera.
On veut son adresse. Merci Gaëlle, donc il nous reste à observer la nature pour voir ces rondes sorcières et puis les prendre en photo parce que c'est quand même un phénomène assez sympathique et beau à voir. Dans la suite des jardinières, après une pause musicale, on va parler des espèces de champignons qu'on peut croiser au printemps dans nos forêts ou dans les pâturages, parce que vous avez dit que certains champignons poussent sous des vergers, plutôt dans l'herbe du coup.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons dans le canton de Neuchâtel. C'est le printemps et c'est aussi la saison des champignons parce que oui, on trouve des champignons toute l'année. Gaëlle, vous nous avez parlé du tricholome de la Saint-Georges qui devrait sortir tout bientôt. Les morilles, vous nous avez dit que c'était le moment d'aller en forêt. Mais durant notre balade au jardin botanique, on est tombé sur autre chose.
Mylène, je crois qu'il y a eu un meurtre au jardin botanique. On a trouvé des oreilles. Mais non, c'est des oreilles de Judas.
Mais alors, s'il y a les oreilles de Judas, Judas n'entend plus rien.
Exactement, voilà. Alors, la légende, pourquoi on dit que c'est l'oreille de Judas? C'est parce que Judas, il s'est pendu sur un sorbier. Et puis du coup, sur un sureau. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, sur les sureaux, il pousse des oreilles de Judas.
Ben voilà, on sait maintenant pourquoi les oreilles de Judas poussent sur les sureaux. Alors, on l'a dit, un tricholome de la Saint-Georges, ça c'est bon, ça sent la farine. Les morilles, bon, ben ça tout le monde connaît. Et puis, les oreilles de Judas, il y a d'autres espèces qui sont comestibles, qu'on trouve maintenant, Gaëlle?
Alors, au cœur de l'hiver, on a souvent la pleurote qui pousse sur les troncs d'arbres. Il y a également la flammuline à pied velu qui pousse en hiver quand les températures sont quand même positives. Hein, ils ne sont quand même pas fous, les champignons. Quand ça gèle, ils ne sortent pas. Et sinon, on a au mois de mars l'hygrophore de mars qui est assez discret, difficile à trouver, mais qui est aussi un excellent comestible. Et souvent, le printemps va se terminer justement avec le tricholome de la Saint-Georges. Donc ça, c'est toutes des espèces comestibles.
Et certains champignons ne sont évidemment pas comestibles, mais méritent quand même d'être observés. Lesquels, par exemple ?
Ah, moi, je trouve que ce qui annonce le printemps, c'est la pésise rouge. Je ne sais pas si tu te souviens, Mylène, une année, on l'avait vue. C'était vraiment une petite coupelle toute rouge. Ah, elle est absolument magnifique à voir.
Et on dit aussi que si on trouve cette petite coupelle, il y a souvent des morilles.
Voilà, parce qu'elle pousse justement à la même période. Puis après, bien sûr, tous les champignons qui poussent sur les arbres, qu'on appelle les croûtes, ces champignons, sitôt que les températures sont un peu douces, ils continuent leur croissance.
Gaëlle, est-ce qu'il y a des champignons qui sont présents toute l'année, qu'on pourrait trouver aussi bien au printemps qu'en hiver, en été, en automne, à part dans une champignonnière par exemple, hein.
Oui, bien sûr, alors effectivement. Après, sinon dans la nature, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a des fois des champignons à la fin de l'automne qu'on va retrouver en fait au printemps parce que les conditions environnementales sont à peu près identiques. Il y a des champignons justement, donc c'est vraiment la température et l'humidité qui va influencer les fructifications. Donc des fois, il y a des tricholomes de la Saint-Georges qui vont pousser début avril. On a des ceps d'été qui vont pousser au mois de mai parce que les conditions sont favorables.
J'avais une question, puisqu'on a vu passer il n'y a pas longtemps qu'il y avait peut-être des espèces de champignons qui étaient menacées, notamment celles de printemps qui sont parfois rares. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour protéger des espèces qui seraient menacées ?
Alors, ce qui fait la rareté en fait d'un champignon, c'est de nouveau son habitat. Donc, quand on protège un champignon, on protège surtout son habitat qui peut disparaître. Donc, en Suisse, il y a une liste rouge des champignons, hein, comme dans beaucoup de pays. Il y a 12 espèces qui sont vraiment protégées. Et au printemps, on peut trouver par exemple la verpe de Bohême, qui est un champignon qui est protégé. Donc, quand c'est protégé, on évite d'aller piétiner dans cette zone. On évite bien sûr de ramasser pour laisser le champignon pouvoir finir son cycle de vie.
Et qu'est-ce qu'on risque si on ramasse un de ces champignons protégés ? Une amende ?
Non, je crois pas. Enfin, c'est une très bonne question. Mais je pense pas. Mais simplement, c'est aussi les listes rouges, elles sont là pour sensibiliser les personnes. Et pour justement protéger surtout les habitats.
On trouve aussi des champignons de printemps dans les commerces, comme par exemple des morilles fraîches en ce moment. Comment on peut évaluer leur fraîcheur ? Parce qu'en forêt, on peut se coller contre, les toucher, mais là, c'est plus compliqué dans les magasins.
Dans les magasins, ces barquettes qui sont pratiquement sous vide, où il n'y a pas d'air, franchement, moi, je les prends pas, je les achète pas. Je ne les cueille pas dans le magasin, non. Après, c'est regarder que le champignon ait des belles couleurs, qu'il n'ait pas des traces noirâtres, qu'il n'ait pas un jus qui sointe, parce que des fois, on peut trouver ces barquettes de chanterelles, mais elles sont pitoyables. Hein. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous achetez en magasin aussi.
Merci Gaëlle. On rappelle que le mieux reste de toute façon l'identification de votre récolte par des contrôleuses ou des contrôleurs et dans le doute, donc la logique veut qu'on s'abstienne. On se retrouve une dernière fois pour parler de la conservation des champignons, juste après une courte pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous parlons de champignons en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons dans le canton de Neuchâtel. Depuis 7h, Gaëlle, vous nous avez parlé des tricholomes, de la Saint-Georges, des rondes sorcières et des espèces de champignons qu'on trouve au printemps. Gaëlle, ces champignons, on va aussi les manger quand même. Du coup, là, est-ce que vous auriez une recette à nous partager? Par exemple, la base des tricholomes de la Saint-Georges qui devraient bientôt pointer le bout de leur chapeau.
Oui, alors les tricholomes de la Saint-Georges sont très bons en croûte ou en omelette. Donc, l'idéal, c'est de faire revenir un oignon dans une matière grasse, que ce soit du beurre ou une huile d'olive, par exemple. Ensuite, vous allez faire revenir votre champignon. Vous allez attendre qu'il sorte toute son eau. Petit rappel, on ne nettoie pas un champignon à l'eau, ça enlève certaines saveurs. Donc, une fois qu'on a poêlé et puis qu'on a toute l'eau qui est sortie, on déglace au vin blanc. Comme ça, ça apporte un peu d'acidité. Ensuite, on sale, on poivre. Enfin, on attend que ça s'évapore. On sale, on poivre. Et puis après, on peut soit simplement mettre ça sur un pain toasté. Ou alors, pour faire une croûte. Ou alors, on peut rajouter de la crème aussi. Et quand on rajoute de la crème, en fait, on va attendre aussi que la crème s'épaississe naturellement, sans rajouter de la maïzena ou quoi que ce soit. Puis là, généralement, vous avez une bonne sauce aux champignons que vous pouvez apprêter avec des pâtes ou avec justement sur une croûte. Mylène qui salive.
Oui.
Et pour tous les champignons, le point décisif et crucial avant de les consommer, c'est la cuisson. Il y a des règles pour savoir être au plus juste?
Oui, on parle justement de minimum 20 minutes de cuisson pour les champignons et aussi de les cuire à découvert pour que les toxines elles s'évaporent. Donc c'est vraiment important. Et puis aussi, ce qui est quand même important, c'est la conservation, c'est-à-dire qu'on va prendre les champignons, si on les a pris en forêt, on les consomme sous 1-2 jours au frigo, grand maximum, les sécher aussi le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait des bactéries qui fermentent ou quoi que ce soit.
Voilà, et si on les... Oui, pardon. Si on les stocke en vinaigre, s'ils sont vinaigrés, il y a des dates de péremption sur des champignons ou une fois qu'ils sont dans le vinaigre, ils ne bougent plus, ils sont consommables?
Alors, c'est comme tout chose qu'on a fait en conserve, en fait. Donc, ça va résister, je crois que c'est à peu près une année qu'ils disent. Mais après, il faut faire attention quand on utilise le vinaigre, de ne pas avoir des bocaux qui rouillent pour éviter qu'il y ait des toxines qui se libèrent aussi. Donc, c'est quand même... Puis que la préparation soit bien... faites stérilement, on va dire, pour éviter qu'il y ait des contaminations.
Ça serait dommage d'être malade. Après la cueillette, avant de passer en cuisine, il y a toujours un doute, parfois, qui persiste. On va faire contrôler sa cueillette. Alors, par exemple, on vient chez vous, Gaëlle. On arrive comment avec le champignon? Toujours dans un sac en tissu ou dans un panier?
Exactement, ça c'est important, parce que dans un sac plastique, je rappelle que les champignons peuvent fermenter, donc ça peut augmenter la prolifération de bactéries qui peuvent rendre indigeste le champignon puis provoquer une intoxication alimentaire. Donc quand on téléphone à un contrôleur, on téléphone le plus rapidement possible, on fixe un rendez-vous, surtout maintenant que c'est hors saison, donc on appelle le contrôleur. Ces champignons, on les met au frais en attendant. Et après, c'est le contrôle de bien toujours prendre l'entièreté du champignon parce qu'il peut y avoir des critères dans la base du pied. Ça, c'est important. Et du coup, je rappelle que vous trouverez toutes les informations sur les contrôleurs sur vapco.ch.
Et si par malheur, on consomme un champignon qui n'est pas comestible, qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'on doit faire à l'apparition de symptômes éventuels?
Alors, si vous avez de la chance puis qu'il n'est pas comestible, simplement, il y a pas grand-chose qui va se passer. Mais s'il est toxique, si vous sentez des troubles gastro-intestinaux qui commencent, essayez de récolter les restes de la cuisson des champignons, de ce qui restait en fait. Voir si vous avez des photos. Vous appelez le Toxentrum au 145. Vous allez, si c'est des symptômes qui sont graves et que vous avez un fort doute sur des champignons mortels comme la manite phalloïde, vous allez directement aux urgences. Et les urgences et le Toxentrum vont mandater des contrôleurs qui sont spécialistes dans les intoxications et qui sont capables de reconnaître les champignons, les symptômes et puis faire une recherche pour savoir quels champignons.
Merci beaucoup Gaëlle d'avoir été notre invitée ce matin. On rappelle que vous êtes contrôleuse en champignons pour WAPCO, l'association suisse des organes officiels de contrôle de champignons. WAPCO.ch, WAPKO.ch, une adresse à souvenir. On vous souhaite un bon printemps, on espère vous revoir en automne.
Oui, j'espère.
La semaine prochaine, à cette même place, nous recevrons Olivier Ribaud, qui lui est pépiniériste à Port-en-Truy.
Et bien sûr, on répondra à vos questions jardinage, vu que aujourd'hui on n'a parlé que de champignons. Bon week-end, Stan. Bonne chasse aux morilles.
Mais pareillement, Mylène.
Merci et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.